quand on a 7, 4, 5 ans, 6 ans. Donc ensuite, ce rapport donc quotidien à l'eau qu'on allait chercher, on le retrouve dans la gestion spontanée qu'on avait de l'eau. On a été, je crois, ici, hein, et probablement dans beaucoup d'autres endroits, on a été éduqué dans le respect de l'eau, dans la gestion de l'eau, dans le fait que ça se partage. Et à l'époque, le tour d'eau que l'on avait pour les jardins notamment, c'était quelque chose de sérieux et qui parfois nous faisait nous lever la nuit. Je me souviens, moi, à certaines heures vraiment de la nuit, il fallait aller prendre son tour d'eau, sinon on ne l'avait pas. Et c'était important pour les jardins.
Alors attendez, excuse-moi, j'aurais juste une petite question pour comprendre. C'est toi, c'est cette notion de tour d'eau, parce que tout le monde n'avait pas accès à l'eau.
Ben, il y avait un partage de l'eau de la fontaine, par exemple, des réservoirs ou du stockage de cette eau, pour notamment l'irrigation des jardins.
D'accord.
Notamment, hein.
Par
Et par
famille.
exemple.
Et le partage, qui? Il y avait quelqu'un qui, genre un chef d'orchestre qui
Ah
disait où ça
ben,
se faisait
écoutez,
de
à ce qui m'en
façon.
souvient, c'était plutôt géré au niveau communal,
Oui.
hein. Et par exemple, dans cette maison, je sais que lorsque, il y a une trentaine d'années, on est venu s'installer ici, on m'a rappelé que le lundi, on avait notre tour d'eau, c'est-à-dire que l'eau du ruisseau, on pouvait la récupérer le lundi pour irriguer ou pour la stocker dans une citerne, etc. Donc il y avait un partage de l'eau
En fonction des quartiers.
des quartiers, oui, et puis souvent plus elle manquait, et puis il fallait justement la répartir de façon plus ou moins gérée. Il y avait parfois des incidents à ce niveau-là, hein. Je veux dire, il pouvait y avoir des altercations, des disputes pour des questions de partage de l'eau.
Et est-ce que vous pouvez le situer dans le temps, là, ces années 60, 60,
Oui,
jusqu'à
écoutez,
quand à
moi,
peu près?
j'ai vécu au village jusqu'en 1960, donc des années de 50 à 60, si vous voulez, j'ai vécu dans ce contexte-là. Et j'ai des souvenirs très précis. Nous avions un jardin à 1 km du village. Il fallait, après l'école, aller arroser. Et là, il y avait un réservoir. Et c'était une petite fierté pour moi que de savoir aller chercher l'eau qui était à peu près à 200 mètres du jardin et déboucher ce réservoir et conduire l'eau dans une châtaigneraie. D'ailleurs, c'était une image très agréable, hein, et savoir amener l'eau jusqu'au jardin. C'était ma petite fierté à 7 ans, 8 ans, que d'être capable d'amener l'eau jusqu'où il fallait l'amener dans le jardin. Donc ça, c'est un souvenir d'enfance. Et puis l'eau, c'était... à l'époque, les incendies, c'était très inquiétant. Donc, il fallait savoir où était l'eau, où on pouvait la trouver et comment vraiment l'utiliser de la meilleure façon possible. Il y avait un respect de l'eau, un respect de l'eau, de son usage. Et y compris, comment dire, il y avait une certaine finesse, hein. Les sources ne se valaient pas toutes. Je me souviens des noms en Corse, il y avait une eau qui était peut-être un peu pétillante, que sais-je, qu'on appelait l'aqua vitae. D'autres sources,
À quoi, vous pouvez répéter à quoi? Vitesse.
aqua vitae, comme un
Oui.
peu la friture, quoi. Est-ce
Ouais.
qu'elle était,
Pétillante.
voilà, sparkling water, on dirait les anglophones. Donc, et puis d'autres eaux étaient réputées pour donner des ballonnements. L'eau des caldanes qui était sulfureuse était censée drainer le foie. Vous voyez,
Oui.
donc il y avait c'était un petit peu, c'était pas l'eau en général, il y avait chaque source, et à l'époque il y en avait
Il y
peut-être
avait des
plus
qualités,
qu'aujourd'hui,
oui.
avait ses caractéristiques.
Nature de l'eau.
Mais même la pluie, je veux dire, on qualifiait la pluie, je veux dire, lorsque il y avait eu une averse forte, rapide et brève, en Corse on dit una trostata, donc elle est bruyante, quoi, c'est de l'eau qui tombait. C'était moins intéressant qu'une eau qui tombait fine et continue, on disait qu'elle était patime, qu'elle pénétrait, qu'elle imprégnait, et celle-ci était la bienvenue, parce qu'elle elle
Nourrissait.
régénérait les terrains, les arbres, enfin toute la nature. Donc il y avait quand même je dirais, une analyse fine de l'eau. Globalement, au niveau du comportement du Corse de l'Altaroc, hein, peut-être notre ami Propriano pourra contredire, mais on n'est pas tourné vers l'eau, vers la grande eau, vers la mer. Dans notre famille, par exemple, on a hérité un surnom. On avait un ancêtre qui était matelot, qui avait ramené les cendres de Napoléon sur la Belle Poule. Et donc, les matelots, c'est un surnom dont on avait hérité. Mais c'était rare d'avoir des matelots dans les familles de moyenne montagne, hein. Et puis l'eau, c'est souvent, enfin la mer en tout cas, c'est ce qui nous apportait parfois des problèmes. Je veux dire, les Tourgénoises, elles sont pas là seulement pour être photographiées. Elles avaient une autre fonction. Et puis, c'est vrai que, bon, après, je n'ai pas de souvenir immédiat, peut-être j'aurais dû y réfléchir, mais je n'ai pas de souvenir immédiat de légende. J'en ai ailleurs, sous d'autres cieux, oui, Mamiwata ou ailleurs, il y a d'autres légendes qui parlent de l'eau. Mais moi, j'ai un trajet personnel qui m'a fait mettre non plus justement de l'utilitaire dans l'eau, mais tout ce que j'ai hérité par les études, par des choses comme ça. Quand on fait des études de philo, vous savez que pour Thalès, l'eau était l'élément déterminant de toute chose. C'est Thalès de Milet. Donc, j'ai toujours en mémoire des citations de choses lues, donc, hein, non pas apprises à Talanne, mais que je retrouve dans mon vécu ici. Héraclite, hein, tout coule, rien ne demeure, nous n'entrons jamais deux fois dans le même fleuve. Le temps et l'eau, il y a une relation. Bon, l'eau permet de mesurer le temps, souvent. Même Jaurès avait cette formule que j'ai utilisée encore récemment, sans penser à votre interview. Il avait cette formule très belle. Il disait: c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Ça en dit des choses. Hein, voilà, donc Thalès, Héraclite, ça c'était dans mes études de philo. Et puis, même maintenant, à 72 ans, il y a 60 ans que je pêche la truite, hein, depuis l'âge de 12 ans. Et je peux dire au moins des dizaines de fois, en arrivant au bord du Rizzanese, me saute à la mémoire le dormeur du Val de Raimbault. Il y avait des truites, hein,
Et à
à
quoi vous
l'époque.
pêchez
Ouais.
la truite? À
Pardon?
la mouche, à la...
Non, moi je la pêche à la teigne ou au ver de terreau.
Alors le ver de terreau, vous le prenez où?
Ben, je le prends dans mon jardin
Ah. Des
généralement.
lambrics,
Et
alors ce sont des
puis
lambrics.
voilà. Et puis j'ai des composteurs, j'ai puis il y en a. Hein. Et puis après, quand la saison avance, je vais chez Bourriez, comme beaucoup de gens, et je prends des vers de terreau de qualité d'ailleurs qu'il reçoit d'ailleurs.
Et des porte-bois, il n'y en a pas là.
Si, 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 en bas de chez vous, il y en a plein. Hein.
Ah oui.
Et je me souviens, à l'époque, on pêchait au porte-bois.
C'est quoi le porte-bois?
C'est la larve d'un papillon. Je crois que c'est la larve de frigane, si j'ai bonne mémoire. PHY. Le porte-bois, c'est une larve qui vit dans un fourreau qu'elle
Une
constitue
précieuse
elle-même.
pierre.
Soit de bois, soit parfois de tout petits bouts de sable et autres, donc ça fait un fourreau. Et souvent on peut les faire venir facilement en coupant une pomme de terre, ils viennent se fixer dessus. Mais en juin, juillet, on en prenait dans tous les cours d'eau un peu frais.